France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Mélanie Chalandon, Fanny Richet et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. C'est le troisième épisode de notre série sur les violences policières utilisées comme armes politiques dans les démocraties, avant une journée spéciale vendredi sur France Culture consacrée aux Iraniennes et aux Iraniens réprimés, tués, écrasés. Dans Culture Monde, après l'ICE qui aux États-Unis attaque et les étrangers et l'état de droit, après le Brésil où l'extrême droite se félicite d'une opération policière dans les favelas de Rio qui a tourné au massacre, nous parlons ce matin de l'Afrique du Sud. La police y vise les travailleurs des mines quand ils sont en grève ou clandestins.
Nous n'envoyons pas d'aide aux criminels. Nous allons les enfumer. Ils vont sortir. Les criminels n'ont pas à être aidés. Les criminels doivent être persécutés. Nous ne les avons pas envoyés là-bas. Et ils ne sont pas descendus pour le bien de la République ou avec de bonnes intentions.
Underground for now. There's nothing left.
Sous terre, il n'y a plus rien à manger, à boire, ou quoi que ce soit qui puisse permettre à un être humain de survivre. Il n'y a plus rien sous terre pour l'instant. Cette opération de police a tout arrêté. Nous avons souffert sous terre. Certains d'entre nous sont morts. Certains d'entre nous sont malades, gravement malades.
Nous sommes au quatrième jour de cette opération particulière et nous pouvons confirmer qu'hier, 246 mineurs illégaux ont été extraits vivants et que 78 ont été certifiés comme étant décédés.
Ceux qui ont survécu dans les galeries aveugles et l'air vicié de la mine de Stilfontein étaient de véritables surhommes. 5 mois sans lumière, 5 mois sans nourriture autre que ce qui leur restait avant que les forces de l'ordre n'arrivent ou ce que les habitants réussissaient au début à leur faire parvenir en cachette. 5 mois sans eau, à part les bouteilles en plastique que la police consentait à jeter dans la mine, à raison d'une bouteille de 50 centilitres par personne pour 2 semaines. Il ne fallait surtout pas céder à la tentation de boire l'eau souterraine pleine de déchets et de produits chimiques. Il y a un peu plus d'un an maintenant, le 13 janvier 2025, une étroite nacelle rouge commençait l'opération d'évacuation des mineurs de cette mine de Stilfontein à 150 km au sud-ouest de Johannesburg, non pas pour sauver les 246 rescapés, mais pour les arrêter, car ce siège s'inscrivait dans le cadre d'un programme plus large des autorités sud-africaines, extirper des entrailles de la terre les mineurs illégaux, ceux qui alimentent le trafic de minerais, en particulier d'or, et nourrissent ainsi les gangs criminels. Ces mineurs clandestins sont en fait eux-mêmes exploités par les groupes mafieux qui recrutent leurs commis parmi les plus pauvres pour extraire dans les sous-sols la matière de leur commerce à vide. Mais le pouvoir sud-africain s'offre une popularité à bon compte en disant débarrasser le pays du crime organisé et résoudre du même coup le problème du chômage. Alors comment le parti au pouvoir, l'ANC, est-il passé du parti du peuple et de la lutte anti-apartheid à celui qui ordonne de poursuivre les travailleurs illégaux sans distinction, se félicite de les affamer et joue aussi sur un discours xénophobe. Cette rhétorique est-elle fructueuse politiquement ? Bonjour Judith Ayem.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis Issinor à Lille. Vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université de Lille. Vous avez publié un ouvrage de référence sur la figure ouvrière en Afrique du Sud après l'apartheid chez Kartala. Et vous travaillez aujourd'hui sur les enjeux de patrimonialisation autour du massacre de Marikana avec une de vos collègues qui est Barbara Morovic. Et ce massacre de Marikana, c'était en 2012 et c'était déjà la police qui avait cette fois tiré sur des ouvriers ouvriers des mines qui n'étaient pas, eux, clandestins, mais en grève. On en parlera puisque ce massacre de Stilfontein a fait écho, bien sûr, à ce précédent massacre, bien qu'il y ait aujourd'hui également débat sur le terme de massacre pour l'un et l'autre de ces situations. Alors, vous avez Judith Ayem, comme des centaines de milliers de personnes dans le monde d'ailleurs, mais avec vos connaissances historiques et politiques, vous allez nous partager ces connaissances, puisque vous avez suivi l'intervention policière dans la mine de Stilfontein. D'abord, rappelez-nous dans quelle séquence politique précise elle s'inscrit. Nous sommes donc en août 2024. Qui ordonne à la police d'intervenir à Stilfontein ?
Alors, l'intervention à Stilfontein a été diligentée par le ministère de la Police, en accord avec le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est décidé au plus haut sommet de l'État. Et l'intervention s'inscrit, comme vous l'avez dit en introduction, dans le cadre de cette vaste opération commencée en novembre 2023 et qui devait se terminer en mai 2025, Vala Umgodi, ou bien boucher les trous en Zoulou. Donc, il s'agit de pour le gouvernement, l'annonce, c'est qu'il s'agit de venir à bout de ces ouvriers, ces mineurs. Moi, je préfère parler de mineurs artisanaux plutôt que de mineurs illégaux, précisément pour ne pas entrer dans la rhétorique du gouvernement. Ces mineurs qui descendent dans les nombreux puits désaffectés par les compagnies minières officielles, parce qu'ils ne sont plus suffisamment productifs, mais dans lesquels il est encore possible de récupérer du minerai, en particulier de l'or.
Parce que l'Afrique du Sud est propice aujourd'hui à l'activité minière artisanale, disons, si vous ne souhaitez pas dire illégale. En tout cas, c'est un pays qui a longtemps été le premier pays au monde en termes de production minière, mais aujourd'hui, beaucoup de concessions ou de gisements sont abandonnés. Pourquoi ?
Alors, effectivement, il faut bien avoir en tête que l'Afrique du Sud reste un des plus grands producteurs de différents minerais, le diamant, beaucoup d'or, le platine, c'est le platine qui est exploité à Marikana, évoqué en introduction, et notamment à l'est et à l'ouest de Johannesburg, dont le nom Zoulou est Egoli, la ville de l'or, qui a été fondée sur l'exploitation de l'or. Il y a de nombreux puits qui ne sont plus exploités à l'heure actuelle, mais qui n'ont pas toujours été correctement bouchés par les compagnies minières qui les exploitaient, de sorte que de manière de plus en plus intense, en particulier après l'épidémie de Covid, voire, on ne le sait pas exactement, mais peut-être pendant celle-ci, alors qu'il y avait du confinement, des hommes, principalement, descendent au fond. Parfois, ce sont d'anciens mineurs, en particulier d'anciens mineurs migrants, pour exploiter ces mines, sans doute avec la complicité de syndicats mafieux, mais dans un contexte où le pays a subi de nombreuses pertes d'emplois, où on estime à près de 30% de la population, 30% de la population est au chômage. Et donc, si je préfère utiliser le mot artisanal, c'est pour souligner qu'il s'agit d'abord pour les gens qui descendent au fond d'essayer de survivre dans une conjoncture qui est particulièrement tendue. Et ils acceptent pour cela de prendre des risques tout à fait inconsidérés. Vous avez rappelé les conditions dans lesquelles ont survécu les mineurs de Stilfontein coincés au fond par l'opération de police.
Donc certains de ces mineurs artisanaux viennent des pays voisins, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique. D'autres sont des travailleurs pauvres sud-africains, parfois eux-mêmes licenciés du secteur minier formel qui a connu de grands plans de licenciement dans les années 90 et d'ailleurs cela continue. Tous sont appelés Zamas-Zamas. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors Zamas-Zamas en Zoulou, c'est ceux qui tentent leur chance. Donc une conscience aiguë qu'il y a des risques à descendre au fond et puis qu'aussi on tente sa chance pour essayer de trouver ce minerai qui n'est pas toujours disponible immédiatement. Donc, qu'il faut chercher comme un chercheur d'or, finalement.
Il n'est pas inintéressant de rappeler par ailleurs, Judith Ayem, comme vous nous disiez, que cette opération Vala Umgodi, boucher les trous en Zoulou, a été lancée en novembre 2023. On était à quelques mois de la présidentielle de mai 2024 et l'ANC était malmenée dans les sondages alors qu'approchait ce scrutin. Donc, à la fois, le discours, c'est de dire que ces personnes prennent le poste, l'emploi d'autres, mais aussi qu'ils participent pleinement au trafic clandestin de minerais. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont effectivement intégrés dans des réseaux de criminalité, ces mineurs artisanaux ?
Alors, moi, pour faire du terrain en Afrique du Sud régulièrement, et notamment ces dernières années dans les mines, de la vie même des mineurs encore en poste ou des représentants des compagnies minières, il paraît évident que pouvoir faire du profit sur cet or, il faut avoir des réseaux au-dessus qui l'évacuent. D'accord, on vend pas de l'or si facilement que cela. Donc il semble avéré que il y a des collaborations au-dessus, que un certain nombre de réseaux mafieux sont à l'œuvre. Le détail de ces réseaux mafieux, je ne les connais pas, je n'ai pas enquêté dessus, et à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de clarté à l'heure actuelle sur cette question. Ça fait partie sans doute du problème lié justement aux enquêtes policières. Pour ce qui est de la main d'œuvre de ceux qui acceptent de descendre au fond, de nombreux témoignages attestent que parfois en réalité c'est eux qui sont exploités en premier lieu, mal payés et parfois malmenés par des gens qui sont au-dessus d'eux. Plus récemment, à Bakersdal, il y a quelques semaines, il y a eu des échanges de tirs et 9 personnes sont mortes et les médias relayent cette information en indiquant qu'il s'agit probablement de règlements de compte entre justement différentes mafias qui exploitent là une autre mine.
Donc ces mineurs sont souvent exploités par ces réseaux de criminalité qui récupèrent ce qu'ils ont sorti de la mine et le revendent, l'or est blanchi dans des pays comme Dubaï ou les Émirats. Et effet, il faut se contenter d'estimations. L'organisation non gouvernementale INACT, par exemple, estime à 800 millions de dollars par an les revenus de l'exploitation illégale d'or sud-africain. On sait aujourd'hui qu'en Afrique du Sud, on estime aussi qu'il y a à peu près quelques 6000 mines abandonnées, dont celle de Stilfontein. Est-ce qu'on sait combien de personnes travaillaient à l'intérieur l'été 2024 quand la police sud-africaine arrive sur les lieux?
Alors les chiffres qui avaient tourné à l'époque avaient été jusqu'à estimer 4000 personnes. Quand enfin la police se voit intimer l'ordre de faire sortir les rescapés au fond, ce sont 246 personnes qui remontent à la surface et 80 corps de personnes décédées. 78 de personnes décédées.
Sur peut-être 4000 personnes. Donc on peut imaginer le nombre de tous ceux dont on n'a pas retrouvé le corps, qui peut-être sont tombés dans les galeries, qui se sont noyés dans les artères qui étaient gorgées d'eau pour certaines quand ils ont essayé de fuir. Quand les forces de l'ordre arrivent, comment est-ce qu'elles procèdent d'abord? Est-ce qu'elles demandent d'abord aux mineurs de sortir? Quelles sont leurs directives en fait aux agents de police?
Alors effectivement, avant Stilfontein, la télévision sud-africaine faisait régulièrement des reportages sur des crashdowns sur d'autres mines où on voyait sortir les gens mains en l'air dans un grand show médiatique. À Stilfontein, la configuration particulière qui a été bien documentée notamment par MACWA, Mining Affected Communities United in Action, c'est qu'il y avait au moins 2 puits qui étaient exploités par les mineurs. On parle de puits extrêmement profonds, plus de 2 km sous terre, qui donc ne sont plus équipés pour une descente avec des ascenseurs de nature industrielle comme durant l'exploitation par la compagnie minière. Donc une descente et une remontée extrêmement périlleuse qui s'effectuait par des systèmes de poulies et de cordes actionnés avec l'aide des gens en surface, notamment les communautés voisines. Et la police s'est postée aux alentours des puits et a commencé par parvenir à faire remonter un certain nombre de gens d'une des galeries. Et puis, elle s'est postée à une autre galerie en décrétant, vous avez donné le son en début d'émission, qu'on n'allait pas aider ces gens, on allait les enfumer comme on aurait fait avec des animaux et qu'ils allaient remonter. Donc il y a eu une espèce de siège de la police et un bras de fer s'est engagé qui a été commenté de manière incessante par les radios locales. Tous les matins, on avait droit à des commentaires des radios locales disant que ces mineurs faisaient des revendications éhontées, qui demandaient du ketchup, qui demandaient qu'on les aide, etc. Et qu'en fait, c'était de dangereux brigands, de dangereux criminels et qu'on n'allait certainement pas leur accorder tout cela.
Ils disaient qu'ils demandaient du ketchup.
Ils demandaient du ketchup. D'accord. Alors parmi les alors, c'était un peu comme ça que ça se racontait sur les réseaux sociaux ou sur les radios, et en réalité parmi les mythes le décryptage qui a été fait par Makwa dans un document tout à fait bien fait. Il y avait en fait cet enjeu qui était démonté, qui expliquait qu'en réalité les mineurs disaient, avec une cuillère de ketchup, vu qu'on n'a plus rien à manger, on arrive à tenir le coup pendant quelques jours. Et donc le propos n'était pas du tout de mettre du ketchup sur des frites qu'on n'avait pas, mais simplement de demander de quoi survivre dans des conditions extrêmes qui étaient devenues des conditions de famine et de déchéance totale. Donc il y a eu vraiment un discours qui criminalisait, qui déshumanisait, qui les montrait du doigt comme des gens qui exploitaient, qui volaient le pain des Sud-Africains, qui a malheureusement été assez largement repris par bon nombre d'auditeurs sur les réseaux sociaux, à la radio. On entendait vraiment les commentaires, c'était très odieux, alors que en réalité, on avait affaire à des gens qui étaient coincés au fond et qui ne pouvaient pas remonter, puisque notamment il n'y avait pas de communication entre le puits dont on avait vu sortir un certain nombre de mineurs et celui dans lequel eux étaient enfermés, ou alors une communication par une galerie qui était si longue et si dangereuse, à 2 kilomètres sous terre, je le rappelle, et sans aération mécanique fonctionnant comme au temps d'une exploitation industrielle, que se rendre à l'autre puits était pratiquement inenvisageable.
Donc, d'autant que la mine de Stilfontein est une mine très ancienne, donc elle est très Absolument. Développée, très structurée, très profonde et très dangereuse parce qu'elle est pleine de fils l'ont épuisé. C'est une vraie ville souterraine. Et un vrai labyrinthe. Les proches de ces mineurs bloqués sous terre ont suivi, bien sûr, tous les jours, s'inquiétaient pour ceux d'entre eux qui étaient restés dessous. Ils savaient la dangerosité des choses.
Nous avons des frères là-bas. Nous avons des fils là-bas. Le père de mes enfants est là-bas. Nos enfants sont en difficulté. Alors nous voulons de l'aide.
Nous sommes ici pour nos frères et sœurs, et mon mari est là. Il a passé 8 mois sous terre. La police dit qu'on ne peut pas distribuer de nourriture sous terre. Beaucoup de gens sont morts parce qu'il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau. Et les Amazamas nous soutiennent pour vivre, parce qu'ils mettent de la nourriture sur la table et nous permettent de payer le loyer.
Un témoignage recueilli par TV5 Monde en novembre 2024. Donc le siège avait déjà lieu depuis de très longues semaines et il durera encore jusqu'en janvier 2025. La police, Judith Ayem, la police sud-africaine qui a mis en place ce siège, est-ce qu'elle l'a autant mis en place que mis en scène, comme à Rio dont on parlait hier, cette intervention de la police militaire dans les favelas du sud de la ville brésilienne? Nos invités nous ont dit que c'est elle, la police, qui avait appelé la presse pour que des images soient produites et circulent de cette opération présentée comme impérieuse contre le trafic de drogue notamment. À Stilfontein, dans quelle mesure la presse est aussi à la fois appelée, orientée par les forces de l'ordre sur place?
Alors, à Stilfontein, les images étaient peu spectaculaires puisqu'on a vu au fil des journées des policiers campant autour de ce puits dont ils avaient démantelé la poulie, armés, attendant effectivement que les gens sortent et ils ne sortaient pas. Mais le relais médiatique a été quasi quotidien et là où la presse a joué un rôle éminent, qui a d'ailleurs été notifié à nouveau par Makwa dans la déposition qu'elle a faite devant la South Africa Human Rights Commission à propos de Stilfontein, c'est le discours. C'est-à-dire que l'emploi de la dénomination des mineurs, notamment cette dénomination d'illégaux, la répétition systématique du fait qu'ils étaient migrants, le fait de les décrier, de les déshumaniser, etc., a nourri l'idée qu'il fallait absolument venir à bout de dangereux criminels. Hein, on l'a entendu dans le premier son que vous avez donné. Et là où il y a eu des choses plus spectaculaires, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans de précédentes opérations Vala Mugodi, où là il y avait des espèces de rafles en surface qui venaient faire le coup de poing sur des gens dont on savait qu'ils étaient qu'ils exploitaient des filons fermés de manière illégale, ou en tout cas non complètement légalisée. Là, par contre, c'était le grand show des groupes de policiers, fusils au poing, les gens mains sur la tête, assis, collés au mur, comme si effectivement on avait affaire à une vaste opération face à des gens dangereux et potentiellement armés. Mais c'est surtout le discours qui a entouré c'est toute la rhétorique qui a entouré ces opérations qui a été extrêmement négative et qui faisait fi de ces conditions de vie et ces conditions économiques qui poussaient les gens à descendre là. C'est-à-dire que c'était vraiment la victime accusée. D'une certaine manière, on pourrait considérer du fait de leur exploitation et du fait de leur situation socio-économique, ces mineurs étaient avant tout victimes d'une situation économique qui a dégénéré et qui s'est considérablement qui est devenue de plus en plus difficile pour une large masse de la population sud-africaine, plutôt que d'être avant tout de dangereux criminels. Et donc le MACWA appelle à une vigilance des médias dans le rapport qu'il a soumis à cette commission, et c'est notamment pour cela que cette proposition, à laquelle adhèrent d'ailleurs les syndicats de mineurs, de parler plutôt de mineurs artisanaux avant de les désigner comme des mineurs illégaux, a surgi en contrepoint donc de cette rhétorique criminelle.
Après que donc en janvier, le 13 janvier 2025, la police eut commencé finalement à faire remonter les mineurs. Alors j'ai pas tellement compris si c'est l'État sud-africain qui lui avait demandé après pression d'associations dont MACWA. C'est ça comment ça s'est passé.
Alors en fait, ça a été une bataille légale importante, puisque quand au fil des semaines, grâce aux témoignages des communautés avoisinantes, il a été avéré pour bon nombre d'ONG, notamment de partis de gauche, que en fait on avait affaire à un siège et qu'au fond il y avait des gens en train de mourir. Il y a eu plusieurs actes de justice successifs. Dans un premier temps, l'association, donc l'ONG, s'est tournée vers l'État en demandant que du renfort soit apporté aux mineurs et qu'en particulier on autorise le fait de leur donner à manger. La nourriture avait été réunie notamment avec des appels de fonds et des espèces de cagnottes en ligne pour permettre de faire descendre de la nourriture. Initialement, la décision a été avalisée et puis elle a été contredite. Et dans la suite, les ONG sur place ont pu obtenir une intervention au motif des droits humains en demandant à des gens qui avaient eux-mêmes de la famille au fond ou qui étaient eux-mêmes qui avaient réussi à remonter à la surface mais qui avaient connu de telles conditions de travail. C'est leur témoignage sur les conditions de travail qui a permis à une cour de justice d'enjoindre le gouvernement à mettre en place les renforts nécessaires et les outils nécessaires à faire remonter ces gens. Donc c'est dans le cadre d'une saisine au nom des droits humains qui sont inscrits dans la Constitution sud-africaine que finalement la police a été forcée à intervenir.
Donc avec cette pression de plusieurs associations de défense des droits de ces mineurs, mais aussi quelques syndicalistes, et vraiment la figure la plus présente à ce moment-là auprès, entre guillemets, de ces mineurs qui étaient un kilomètre, parfois deux kilomètres plus profond sous le sol, c'est Mametlouë Sebeye. Et là, le 13 janvier 2025, au moment où ils sortent, il dit combien il est important de rester très vigilant.
Le premier chargement de 7 mineurs vivants est sorti de la mine. Leur état est très grave. La réalité est qu'ils sont complètement émaciés, complètement déshydratés, dans un état très grave physiquement, et il nous est très clair qu'ils auraient besoin de soins médicaux urgents. Il faudrait évidemment s'occuper aussi de leur traumatisme psychologique.
Mametlouë Sebeye, vous l'avez déjà rencontré, Judith Ayem. Aujourd'hui, il se bat aux côtés de cette association MACWA pour que une suite judiciaire soit donnée à cette affaire, qu'on comprenne exactement comment les choses se sont passées, même si vous nous avez déjà bien développé les choses, on comprend la la chronologie des événements, mais surtout que peut-être des mesures soient prises quand abus il y a eu, et cela paraît assez évident à vous entendre. Comment les responsables politiques se sont saisis de cette affaire? D'abord, est-ce qu'on en sait plus sur les 246 survivants, s'il y avait parmi eux des têtes pensantes du réseau criminel qui exploite la mine? Et quels mots ont employé les responsables politiques pour parler de cette histoire?
Alors, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Mehmet Le Sebaï, mais je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, grâce à des contacts que j'avais dans la mine. Donc, il appartient au General Industrial Workers of South Africa, qui effectivement s'est porté du côté des mineurs et aussi à Makwa. Alors, si je vais commencer, parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs dans le champ politique, je propose de commencer par les syndicats parce que c'est important, notamment si nous évoquons Marikana en deuxième partie des missions.
On est déjà largement dans la deuxième partie.
Je vous
écoute avec tellement d'attention que je ne vois pas l'heure qui file. Mais en effet, il faudra qu'on parle de Marikana 2012 parce que ça explique bien des choses. Je vous en prie, allez-y.
Alors, effectivement, je vais essayer d'être plus synthétique. Non seulement ce premier syndicat que j'ai évoqué, mais également le grand syndicat de National Union of Mine Workers, qui est le syndicat historique qui a été très opposé à l'apartheid dans les années 80. Également le syndicat AMCU qui est intervenu à Marikana. Donc tous les syndicats, assez unanimement et au-delà de leurs différends, ont pris position en faveur de l'idée qu'il fallait légiférer sur ce que eux préfèrent appeler artisanal mining, c'est-à-dire le fait que il reste des filons à exploiter. Ils ne le seront pas par des grandes compagnies, mais ils le sont de manière non cadré par la loi et avec danger par des gens donc qui tentent leur chance, les amazama au fond, et il faudrait une législation correcte. Cela nourrirait l'économie, cela permettrait à des gens de vivre. Et donc il y a un premier débat qui a été ouvert dans le champ politique par tous ces représentants syndicaux et qui, comme moi, et je leur emboîte le pas, préfèrent parler de mineurs artisanaux plutôt que de les criminaliser, et font valoir que on pourrait avoir on pourrait remédier pour part au risque pris et par les gens et aux problèmes économiques en légiférant plutôt que en considérant que ce sont des criminels. Premier point.
Oui, pardon, peut-être recentrer aussi cet échange sur la question des violences policières. C'est pour ça que la rhétorique aussi nous intéresse, et vous avez tout à fait raison de rappeler que les mots sont importants, y compris parce que ces discours politiques nourrissent aussi l'opinion publique, pour le dire très vite, et donc une, en l'occurrence, assez tiède réaction à ce massacre Mais vous alliez continuer, Judith Ayem.
Voilà, donc effectivement cette rhétorique, et puis alors, au sommet de l'État, initialement, il n'y a eu aucun... L'État n'a pas fait amende honorable, l'État n'est pas revenu, n'a pas considéré qu'il avait commis une quelconque faute en affamant, en contribuant à la mort de ces 80 personnes. Néanmoins, une commission d'enquête a été ouverte sur la question et nourrie. Alors, les commissions d'enquête, c'est quelque chose qui est fréquent en Afrique du Sud. Elles sont souvent très documentées, elles n'aboutissent pas toujours à des décisions fermes. Néanmoins, c'est assez notable que le ministre de la Police, aussi en raison des accusations de corruption assez caractérisées dont il a été dont il a été l'objet, ait été démis de ses fonctions, suspendu en août dernier, alors qu'on parlait de lui comme possible candidat pour la prochaine présidentielle, candidat à ANC, et il a été remplacé par un nouveau ministre qui a un profil complètement différent. Il s'agit de Firoz Khachalia, qui est un professeur de droit de l'université de Wits et l'ancien ministre est sous le coup d'une autre commission, Madlanga, du nom à chaque fois du juge d'instruction qui la prend en charge. large et il est sur la sellette à l'heure actuelle.
Donc, est-ce que donc ça Cyril va changer Ramaphosa, voilà, le président sud-africain a peut-être senti qu'il ne pouvait pas, entre guillemets, garder le cap sans mauvais jeu de mots, mais en tout cas qu'il fallait changer de politique policière, même si en fait, après le massacre de Stilfontein, il y a eu d'autres opérations assez similaires, peut-être moins meurtrières et encore en août dernier dans le Mpumalanga, donc la région frontalière avec le Mozambique au nord-est, qui s'est conclue avec l'arrestation de 1000 mineurs artisanaux. Est-ce que l'expression même de violence policière existe, est employée, Judith Ayem, en Afrique du Sud ?
Alors oui, on parle d'exactions policières, on parle de débordements. Il y a eu des précédents dans le mauvais usage du maintien de l'ordre. Disons que c'est ça dont il est question. Effectivement, les morts violentes de suspects sont courantes. Elles sont pas toujours qualifiées directement de violences policières, mais c'est bien l'état d'esprit du nouveau de Firoz Khachalia d'essayer de remédier à ces questions tout en considérant qu'on part de très loin. Il existe aussi une police des polices en Afrique du Sud, mais dont l'efficacité n'est pas totalement avérée. Les enquêtes qu'elle a pu diligenter ont rarement abouti à la suspension ou à la condamnation des policiers incriminés.
J'ai employé le terme de massacre pour Stilfontein. Il y a débat aujourd'hui sur l'emploi de ce mot. C'était peut-être comme une référence à ce qui est dénommé massacre, en tout cas vous appelez Judith Ayem dans vos travaux massacre en 2012, quand la police sud-africaine tire sur les grévistes de la mine de Marikana. Alors je ne crois pas qu'ils soient particulièrement artisanaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient désignés comme clandestins, simplement ils étaient en grève. Cette fusillade avait fait 34 morts. Est-ce que déjà à l'époque, peut-être sur les similitudes et au contraire les différences dans le contexte politique de l'époque, est-ce que la presse déjà jouait un rôle? Est-ce que l'émotion avait été la même? À quelques années d'écart, 14 ans, est-ce que vous voyez des différences qui vous paraissent intéressantes?
Tout à fait. Alors effectivement, je pense que l'utilisation du mot massacre pour Stilfontein visait à faire explicitement référence au massacre de Marikana. À Stilfontein, la police a été d'une violence inouïe puisqu'elle a affamé des gens volontairement et qu'elle n'a pas écouté la nécessité d'en prendre soin. Mais elle n'a pas utilisé des armes pour leur tirer dessus à bout portant. C'est ce qui s'est passé à Marikana, où là, la rhétorique n'était pas celle des mineurs illégaux, puisqu'effectivement, on avait affaire à des mineurs qui étaient employés de la compagnie Londe Mine. Mais on a beaucoup dit que la grève était illégale. Effectivement, elle n'était pas strictement illégale du point de vue du droit sud-africain, mais elle était déclenchée hors d'une période de négociation classique. Et surtout, elle ne passait pas par le relais des syndicats majoritaires et officiels, notamment la National Union of Mine Workers, qui gouvernait, qui faisait partie de la Confédération des syndicats sud-africains, qui gouvernait à l'époque en alliance tripartite avec le Parti communiste sud-africain, avec l'ANC. Donc le fait qu'on ne soit pas passé par le canal de la représentation classique, le fait qu'on ne soit pas dans une période de négociation classique non plus, a été beaucoup utilisé pour légitimer l'intervention brutale de la police qui a donc tiré sur ces mineurs en grève, assis sur une colline pacifiquement, qui n'avait pas d'armes à feu et qui refusait de quitter les lieux pour soutenir l'idée qu'ils voulaient rencontrer le patron et qu'ils voulaient qu'une négociation soit ouverte sur le montant de leur salaire. À l'époque, la rhétorique a aussi consisté, avec des échos troublants avec la période de l'apartheid, à insister sur leurs appartenances ethniques, sur le fait qu'ils étaient des travailleurs tribaux, à mettre en scène leur recours à des pratiques d'appel aux esprits ou de protection des balles, mais qui, de mon point de vue d'anthropologue de la maladie et du symbolique, sont simplement une prise de conscience de ces mineurs qu'ils étaient exposés à une violence policière potentielle et qu'ils espéraient se prémunir. C'est la prière des soldats avant l'assaut, si vous voulez. Mais du point de vue des médias, le propos a vraiment été de les désigner comme des gens dangereux, armés, qui menacé le maintien de l'ordre. Il est vrai qu'il y avait eu des affrontements entre syndicats dans la montée vers la grève et dans la montée vers ce massacre du 16 août 2012. Mais au moment où les coups de feu éclatent, on a affaire à des gens qui sont assis pacifiquement sur une montagne et qui ne font absolument pas mine de charger.
Surtout Judith Ayem, l'impression qu'à l'époque, l'opprobre sur la police sud-africaine qui avait tiré sur ces mineurs, ces ouvriers des mines totalement pacifistes, cet opprobre avait été national, très largement partagé, et que ça n'a pas été le cas pour Stilfontein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour cet épisode de Stilfontein et a eu beaucoup moins d'écho et généré beaucoup moins de colère de la part de ceux qu'on a pu entendre, de quelques syndicalistes et associations des droits de l'homme?
Alors, je tiens à dire que je n'irai pas jusqu'à dire que les mineurs de Marikana étaient pacifistes. Il y avait une grande violence à l'intérieur de la mine et des confrontations entre syndicats. Donc, la violence était réelle, mais au moment où la police tire, c'est absolument pas de la légitime défense. Voilà. Et effectivement, à l'époque, ça a été un tournant historique et politique. C'est-à-dire que dans tout le pays, toute couche de population confondue, jusque dans les campagnes éloignées, partout, on considère que c'est une trahison de l'ANC d'avoir autorisé cette intervention policière, que c'est le Parti de Libération Nationale qui se tourne contre ses propres militants, contre ses propres électeurs. C'est vraiment une onde de choc qui se répercutera d'ailleurs dans le succès de Economic Freedom Fighters, un parti d'opposition qui naît dans la foulée et qui immédiatement a de gros succès électoraux. Malheureusement, de mon point de vue, Stilfontein ne rencontre pas le même écho. C'est-à-dire que là, le fait que effectivement, il y a beaucoup de mineurs étrangers, mais pas toujours illégaux, hein, il s'agit de le souligner. La main-d'œuvre migrante a nourri l'exploitation minière. Il y a beaucoup de ressortissants d'autres pays africains qui vivent en Afrique du Sud en toute légalité, réfugiés politiques, travailleurs migrants. Mais simplement, la nationalité devient un enjeu et effectivement, on voit des vagues xénophobes qui ont donné lieu d'ailleurs parfois à de véritables pogroms dans les townships comme en 2008, puis en 2015 et puis parfois de manière plus ponctuelle. Et là, le discours générique a plutôt été malgré tout de se coller à l'idée qu'on avait affaire à des concurrents des Sud-Africains, à des gens qui étaient illégaux et parce qu'ils étaient étrangers presque, il y avait une espèce de circulation des choses. Et en dépit de la mobilisation de Makwa, de Lawyers for Human Rights, d'un certain nombre de représentants d'ONG ou de militants de la gauche sud-africaine, on n'a pas vu un tel élan de solidarité avec les mineurs de Stilfontein. C'est comme si l'opinion publique, quand même majoritairement, c'est pour ça que je faisais référence à ce qu'on entendait sur les radios locales tout au long de ce siège des mineurs, avait d'abord adhéré à l'idée qu'il fallait s'en débarrasser et qu'ils étaient juste punis pour leurs crimes. Et ça, c'est une conjoncture qui n'est pas bonne en Afrique du Sud, mais qu'exploite assez largement les élus ANC et d'ailleurs d'autres obédiences politiques, puisque comme c'est une conjoncture internationale, c'est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire étranger que de régler à domicile les problèmes urgents de chômage, de délinquance, etc.
Et entre-temps, entre Marikana et Stilfontein, un nouveau président en Afrique du Sud a été élu, c'est Cyril Ramaphosa depuis 2018, qui était lui-même à la tête du plus gros syndicat des travailleurs des mines, la National Union of Mine Workers, mais qui s'est enrichi, qui était l'un des co-actionnaires de la mine de Marikana. En tout cas, l'ANC, son parti, a recouru à la violence pour sortir de bien des conflits sociaux, y compris contre des étudiants qui se sont soulevés à deux reprises, 2015-2021, contre la vie chère. On en parle avec une chercheuse, Cécile Perrault, juste après cette chanteuse sud-africaine, Simfiwe Dana.
Sajana musani vetusi,
La chanteuse sud-africaine Simfiwe Dana et cette chanson Nzima qui date de 2014 qu'elle dit avoir écrit comme une prière en pensant aux victimes du massacre 2 ans plus tôt de Marikana, ces ouvriers des mines en grève sur lesquels la police sud-africaine a tiré. Ce sont eux qu'elle vise aujourd'hui, cette police. Ils sont en grève ou artisanaux. C'est le 3e épisode de notre série sur les violences policières dans les démocraties, utilisées aujourd'hui comme outil politique. La répression policière justifiée en Afrique du Sud par l'emprise des gangs mafieux dans les mines illégales, artisanales, argument plus difficile à mobiliser quand il s'agit de manifestations étudiantes.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous avons fait une barricade et nous sommes descendus vers le point sud. Nous avons commencé à marcher et la police est arrivée sans négociation, sans discussion. Elle a commencé à tirer des gaz lacrymogènes, tirer des balles en caoutchouc. Tout le monde s'est dispersé. 4 étudiants ont été arrêtés et ils sont toujours en cellule. Ils sont toujours en prison.
Une étudiante de l'université du Witwatersrand, la plus importante d'Afrique du Sud, qui dénonçait ici en 2021 l'arrestation de 4 de ses camarades lors de grandes manifestations organisées cette année-là, parce que des établissements de l'enseignement secondaire avaient refusé d'inscrire pour une nouvelle année tous les étudiants qui étaient en retard dans le règlement de leurs frais de scolarité. La police aussi était intervenue de façon musclée. Bonjour Cécile Perrault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2, spécialiste des politiques sociales sud-africaines. D'abord, Cécile Perrault, est-ce que cette lutte pour l'effacement des dettes des étudiants continue aujourd'hui à plus bas bruit, ou est-ce qu'on va circonscrire nos discussions à 2021 ?
Alors, elle continue. Elle précédait même les premiers mouvements de 2015-2016. En fait, c'est une problématique qui revient beaucoup sur le devant de la scène. Les frais de scolarité, les conditions de vie dans les résidences étudiantes, aussi le sentiment de marginalisation d'un certain nombre d'étudiants sur les campus. Et tout ça a donné lieu à des confrontations, des exactions policières répétées au cours des 10-15 dernières années.
Que ce soit la question de l'effacement des dettes, mais aussi les conditions d'enseignement, le logement, l'accès des personnes socialement défavorisées à l'enseignement secondaire, comment les étudiants expriment ces revendications ? Est-ce qu'il s'agit très souvent de manifestations comme en 2015, des blocages ? Est-ce que la police intervient à chaque fois ?
Alors, il y a énormément d'occupations des campus. Les manifestations sont souvent circonscrites en fait au campus. Et les types de méthodes utilisées par la police vont être très divers. Les gaz lacrymogènes, on l'a entendu, matraquage, balles en caoutchouc, grenades assourdissantes, arrestations massives. Donc on a vraiment une intervention récurrente des forces de police, parfois appelées d'ailleurs par des instances de l'université, pour intervenir au niveau des campus et aux alentours. Et on a une violence d'État qui est de plus en plus décomplexée. Et ça a été bien montré par un rapport de Amnesty International de 2016 qui montre vraiment une utilisation démesurée de la force par la police sud-africaine en réponse aux manifestations étudiantes.
Mais alors sur quels arguments cette fois ? Parce que pour les mines dont on parlait en première partie, le pouvoir désigne très souvent les gangs criminels, les gangs mafieux, et dit qu'on n'a aucune pitié pour les criminels quand souvent ces ouvriers ou ces mineurs artisanaux sont par ailleurs eux-mêmes exploités par ces réseaux. Mais là, pour les étudiants, qu'est-ce qui est dit pour justifier cette violence policière ?
Alors en fait, cette violence policière, elle n'a pas effectivement rencontré énormément d'opprobre de la part de la population, comme ça a été le cas, vous l'avez évoqué, dans le cas de Stilfontein. Et on peut se demander pourquoi. Alors, d'abord, il y a une perception assez largement partagée en Afrique du Sud que l'enseignement supérieur, c'est un milieu de privilégiés. Et d'ailleurs, cette perception, elle n'est pas complètement infondée quand on sait que aujourd'hui, seuls 1% des jeunes Sud-Africains de 25 à 35 ans ont un master, contre 16% dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, c'est un milieu qui est perçu comme assez largement fermé au plus grand nombre. Et dans cette mesure-là, les demandes des étudiants, elles ont souvent été perçues comme illégitimes. Et ça a permis de justifier l'usage de la violence à leur encontre. Et puis, ajouter à ça, une autre raison, c'est probablement le regard assez dégradé qui est porté par les anciens activistes qui ont participé à Soweto, qui ont participé également aux manifestations étudiantes dans les années 70 et 80, et qui présentent cette jeunesse aujourd'hui dans les médias comme égoïste, individualiste, apolitique, une image très très dégradée, qui va, là encore, établir un fossé entre cette population étudiante et la population globale. Puis un dernier point, c'est peut-être que les étudiants ont peiné à établir des liens avec d'autres groupes, les travailleurs, les collégiens, les lycéens, comme ça avait pu être le cas, là encore, dans les années 70-80, où les étudiants, eux, avaient réussi à créer ce mouvement un petit peu plus global. Là, les manifestations étudiantes, elles ont rencontré un énorme écho à l'international. Par contre, en Afrique du Sud, les étudiants ont peiné à sortir du strict lieu du campus.
Et peiner surtout aussi à s'attirer les faveurs et un soutien de la part des anciens, comme vous le rappelez, Cécile Perrot, des anciens de la lutte anti-apartheid des années 70 et 80, qui pourraient quand même faire le lien, repenser à tout ce contre quoi ou pourquoi ils se sont battus, et le massacre de Soweto de 76 peut-être on est surpris que ces souvenirs-là ne portent pas aujourd'hui un discours davantage de solidarité de ceux qui ont vécu ces événements de 70-80. Une vraie rupture générationnelle, mais des deux côtés, c'est-à-dire que les jeunes ne cherchent même pas en fait le soutien de leurs ancêtres, entre guillemets, de leurs parents. Ils pensent que c'est plus la même époque, ils vivent plus la même chose.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le cas des manifestations étudiantes, c'est qu'en fait, elles ont rencontré un écho beaucoup plus grand à l'international, du fait notamment de l'usage des réseaux sociaux, la multiplicité des vidéos prises par les smartphones lors des manifestations, qui a permis de vraiment diffuser le message largement, mais que en Afrique du Sud même, il n'y a pas eu cet écho-là, et il y a eu une indifférence assez grande aux exactions commises à l'encontre des étudiants. Et certains se sont même indignés du fait que la population sud-africaine semblait plus réagir aux dégradations de livres ou dégradations sur les matériels sur les campus que aux arrestations et à la violence subie par les étudiants. Et c'est vrai que dans cette mesure-là, on peut peut-être dresser un parallèle avec l'attitude des Sud-Africains vis-à-vis de la violence exercée à Stilfontein, dont vous avez parlé en première partie d'émission, parce que on voit que pour des raisons différentes, tensions xénophobes dans le cas des mineurs et tensions socio-économiques dans le cas des manifestations étudiantes, l'usage de la violence, il est justifié par le plus grand nombre, les violences policières, elles demeurent assez largement impunies. Sont considérés comme acceptables et justifiables.
Et un enseignant sud-africain disait au journal Le Monde en 2021, pendant les grandes mobilisations étudiantes de 2021 en Afrique du Sud, les dirigeants de l'ANC répètent à chaque campagne qu'ils sont du bon côté de l'histoire, mais nos étudiants leur crient qu'ils sont désormais du mauvais côté. Il y a aussi, pour cette rupture générationnelle, quelque chose de l'ordre de la méfiance vis-à-vis d'un parti qui est au pouvoir depuis maintenant très longtemps, et que finalement ces étudiants n'ont rien connu d'autre aujourd'hui et n'ont pas connu cette lutte-là. Ils demandent un peu plus de considération aujourd'hui. Peut-être une question, Cécile Perrot, pour savoir pourquoi ces grandes manifestations étudiantes, on en a eu les échos qu'en 2015, à peu près 2016, alors qu'en fait, il y en a sur les campus depuis le tout début des années 2010, voire avant.
Alors, une des grandes raisons, c'est qu'en 2015-2016, les manifestations, elles vont toucher des établissements qui sont des établissements dits d'élite, anciennement établissements blancs, alors qu'ils sont maintenant à majorité peuplés d'étudiants noirs, mais qui ont bénéficié sous l'apartheid de leur statut d'établissement blanc, avec un bon niveau de finances, un réseau à l'international très développés, qui sont même dans les classements de Shanghai. Donc ces établissements d'élite, ils sont touchés pour la première fois en 2015-2016. Et du fait, justement, que les chercheurs de ces établissements ont des liens avec les universités britanniques, les universités américaines, les universités à travers le monde, les manifestations qui ont lieu sur le campus vont vraiment trouver un véritable écho, ce qui n'était pas le cas quand les manifestations touchaient des petits établissements ruraux et beaucoup plus marginalisés.
Merci beaucoup Cécile Perrot, maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2. Ces grandes mobilisations étudiantes en 2021 notamment, elles portaient d'abord sur la question de l'effacement des dettes des étudiants. FISD must fall, par ailleurs, il s'agissait essaie de faire tomber les frais d'inscription, mais aussi dans un second temps de faire tomber cette fois la statue de Cecil Rhodes, figure de la colonisation en Afrique du Sud. Il y a aussi toute une réflexion autour du décolonialisme dans ces universités aujourd'hui. Pour conclure, Judith Ayem, et prendre dans une même considération à la fois ces violences policières exercées à l'encontre des ouvriers des mines et contre les étudiants. Vous nous disiez tout à l'heure qu'un nouveau ministre de la police était aux commandes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelle réflexion est menée d'après vous en Afrique du Sud aujourd'hui sur la question de la répression de ces mouvements sociaux qui ne demandent qu'à vivre mieux aujourd'hui?
Eh bien, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un nouveau ministre de la police. Cela se fait en parallèle d'une commission d'enquête que j'évoquais tout à l'heure, qui entend investiguer les enjeux de corruption à l'intérieur de la police et les liens entre celle-ci et de potentiels réseaux mafieux ou de corruption. Il y a une conscience qui surgit de plus en plus à l'intérieur du pays que si on n'intervient pas pour restaurer la confiance dans la police, il va y avoir de plus en plus de milices, il va y avoir de plus en plus de brutalité sur le terrain et un état une déstabilisation plus grande dans le pays qui n'est pas bonne pour l'économie. Donc c'est un intérêt bien compris du gouvernement d'y remédier. Est-ce que cela va aboutir? En tout cas, on peut l'espérer. On peut espérer qu'il y aura du mieux, mais de l'avis même de Khachalia, de Firoz Khachalia, il y a du pain sur la planche et cela va être une opération difficile.
Et cette commission d'enquête, elle examine surtout les liens entre police et criminalité ou la classe politique est aussi examinée?
La classe politique est potentiellement aussi examinée puisque un des témoignages qui a déclenché le plus de bruit consistait à revenir sur le frein qui avait été mis à une commission d'enquête qui était spécifiquement mandatée pour enquêter sur les crimes commis sur des élus et des figures politiques.
Merci beaucoup Judith Ayem d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Vous êtes professeure d'anthropologie à l'Université de Lille. Vous avez publié cet ouvrage sur la figure ouvrière en Afrique du Sud après l'apartheid chez Kartala. Vous travaillez avec Barbara Morovic sur les enjeux de patrimonialisation autour du massacre de Marikana. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous depuis ici Nord à Lille avec les moyens techniques de Vivien Gilles que je salue. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Europol alerte Catherine sur les nouveaux moyens déployés par les narcotrafiquants pour déjouer les contrôles.
Des drones, mais aussi des semi-submersibles, des sous-marins conçus pour le transport de cocaïne ou encore de la drogue congelée, les trafiquants ne manquent pas d'imagination pour écouler la drogue dont la production augmente en Amérique latine, tout comme la consommation en Europe, alerte Europol, l'agence de police européenne citée par Bloomberg. Alors que d'importantes cargaisons de cocaïne arrivaient auparavant par des ports comme Anvers, Hambourg et Rotterdam, les narcotrafiquants se déportent de plus en plus vers d'autres ports européens, plus petit et donc moins contrôlé, note Belga News Agency, agence de presse belge. D'après Europol, la drogue est acheminée depuis l'Amérique latine dans de grands bateaux, puis elle est transbordée en haute mer sur des embarcations plus petites au large de l'Afrique. La Guinée-Bissau est ainsi devenue une plaque tournante de ce trafic de cocaïne au point d'être qualifiée de narco-état par la Deutsche Welle. La drogue est ensuite acheminée vers l'Europe, notamment par vedette rapide vers les îles Canaries, le sud de l'Espagne ou encore le Portugal, qui a intercepté cette semaine un narco sous-marin au large des Açores, raconte le quotidien portugais Expresso, 9 tonnes de cocaïne saisies, du jamais vu pour le Portugal. Les narcotrafiquants tentent par ailleurs de déjouer les contrôles en incorporant ou en liant chimiquement la cocaïne avec de la nourriture, du textile, du charbon et du carton, rapporte El País, des techniques qui rendent difficile la détection par des chiens renifleurs ou des scanners. Europol prévient que ce n'est peut-être qu'une question de temps, ajoute Belga News Agency, avant que des navires entièrement autonomes chargés de cocaïne ne traversent l'Atlantique sans équipage.
Aux États-Unis, Catherine, la petite désescalade, comme dit Donald Trump, pour les opérations anti-immigration à Minneapolis se vérifie-t-elle sur le terrain ?
De nombreux agents fédéraux sont toujours présents dans les rues et le va-et-vient des SUV avec des hommes masqués continue à Minneapolis, décrit le quotidien The Minnesota Star Tribune. Pas de répit non plus pour des dizaines de réfugiés en situation régulière qui ont été transférés du Minnesota vers le Texas, alerte le New York Times. Une centaine de réfugiés sans casier judiciaire ont été arrêtés par des agents fédéraux, indique également St. Paul Pioneer Press, à l'image de Selamawit Mehari, une mère de famille érythréenne qui élève seule ses trois enfants à Saint-Paul dans le Minnesota où elle prépare des repas pour des compagnies aériennes. Des agents fédéraux se sont présentés chez elle un matin. Sa fille aînée, âgée de 21 ans, a eu beau leur présenter des papiers prouvant que sa mère séjourne légalement aux États-Unis. Les agents ont menotté Selamawit Mehari et l'ont emmenée tandis que son fils de 13 ans pleurait, raconte le New York Times. Le lendemain, avec des chaînes aux poignets, à la taille et aux chevilles, cette mère de famille montait péniblement les marches d'un avion direction le Texas, menacée d'expulsion vers l'Érythrée. Dans un centre de détention, elle dormait sur un matelas à même le sol, dans une pièce glaciale, régulièrement interrogée par un agent de l'immigration. Elle a finalement été libérée au bout de quelques jours, sans argent ni papier d'identité. Sa famille a dû lui payer le billet d'avion retour. Selamawit Mehari explique au New York Times s'être accrochée à sa foi chrétienne pendant toute cette épreuve. Des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams continuent, comme de nombreux autres citoyens aux États-Unis, de dénoncer la brutalité des agents de l'immigration. Mobilisation à Minneapolis, à Dallas, Chicago, rapporte CBS News Minnesota, El País, Kera News et Fox 32 Chicago.
Et la bataille continue sur le plan politique.
Les démocrates font planer la menace d'un nouveau shutdown dès vendredi, souligne The Hill, pour empêcher l'administration Trump de financer sa lutte contre l'immigration. Avec 10 milliards supplémentaires prévus pour l'ICE, dans un paquet global de plus de 64 milliards de dollars pour la sécurité intérieure, dont la ministre Kristi Noem est visée par les principaux démocrates du Congrès. Ils lancent une procédure de destitution contre elle, indique CNN et Axios. Kristi Noem également contestée par un nombre croissant de républicains. Dans ce contexte compliqué pour la Maison-Blanche, voici une information peu médiatisée. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a envoyé une lettre au gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour rétablir l'ordre public. Alors, sans aucun rapport avec l'immigration, souligne Newsweek et le New York Times, la ministre de la Justice exige les listes électorales du Minnesota, où figurent des informations confidentielles sur les électeurs, explique le New York Times. Le quotidien s'inquiète de l'utilisation potentielle de ces données par l'administration Trump, qui a déjà tenté d'un validé la présidentielle de 2020 et qui continue d'en contester la légitimité. Risque de voir ces données utilisées pour jeter le doute sur les résultats des élections à venir ou d'invalider le vote de certains électeurs, craint le New York Times. L'administration Trump a par ailleurs menacé de déployer l'ICE pour la finale du Super Bowl, note le magazine Variety, et le portoricain Bad Bunny, qui va chanter lors de cette finale du championnat de foot américain le 9 février prochain, a répondu à ces menaces, aux critiques de Donald Trump dans le New York Post, par un clip où il est rejoint par une série de danseurs de tous âges et de toutes couleurs de peau. Son message était on ne peut plus clair pour Variety NME. Tout le monde est bienvenu pour une danse inoubliable, baile inolvidable.
Merci beaucoup Catherine Dutu.